l'émission de la SAN. Pulsan, l'émission radio de la Société d'astronomie de Nantes. Le monde étrange des étoiles.
Bonsoir, vous êtes en direct sur Alternante FM, 98.1 à Nantes et 91 à Saint-Gervais. Ah, ça c'est très drôle. Donc vous êtes toujours en direct et ça se voit et ça s'entend sur Alternante FM et 98.1, c'est 10 fois la constante de gravitation à Nantes pour cette nouvelle émission Pulsan, l'émission de la SAN, la Société d'astronomie de Nantes. Et comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas des professionnels de la radio, c'est ça qui est drôle. Et c'est pour cela que nous sommes des astronomes. Heureusement que les sondes ne sont pas pilotées par la SAN. Comme tous les 15 jours à 21h, les lundis des semaines paires, nous vous parlerons d'astronomie, vue par les astronomes amateurs de notre société. Ce soir, nous vous invitons à faire un tour à l'Observatoire de Paris, qui fut et demeure l'un des plus hauts lieux de l'astronomie mondiale. Nous évoquerons toute la grande période qui consacra le triomphe de l'astrométrie, l'un des fleurons les plus prestigieux de l'astronomie française au XVIIe et au XIXe siècle, du XVIIe au XIXe, auxquels se rattachent les grands noms comme Arago et Le Verrier notamment. Ce sera l'objet de notre grand thème de ce soir qui sera coupé en deux parties. En deuxième partie de cette émission, nous inaugurons une nouvelle rubrique en accueillant nos amis du club astro Le Cocher de la Chapelle-sur-Erdre. Ils sont pas là, je voulais leur dire bonsoir, mais ils viendront tout à l'heure. Et bien sûr, nos rubriques habituelles. Ce soir, la rubrique astropratique dans laquelle nous aborderons le problème des filtres optiques. Mon cher Régis, je ne sais pas encore de quoi tu vas nous parler, mais nous le saurons. Et la rubrique « Un peu d'histoire » où nous verrons comment les anciens avaient mesuré la circonférence de la Terre avec l'expérience d'Ératosthène et Louis Campion. Et juste un tout petit mot avant, je voulais vous dire que nous sortons de la semaine de l'astronomie, mais nous vous en parlerons une autre fois, ce fut fort intéressant et nous vous passerons bien sûr les meilleurs morceaux de ces grands moments d'astronomie que nous avons vécu la semaine dernière à Nantes. Alors, mon cher Raphaël, à toi de présenter notre première séquence.
Alors, nous reparlerons de l'Observatoire de Paris que nous avons déjà présenté lors d'une précédente émission. Et cette fois-ci, nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans le détail avec notamment Daniel Wöhrling et Louis Campion.
Voilà. Eh bien, merci, cher Raphaël. L'Observatoire de Paris. Alors, cet Observatoire de Paris qui regroupe aujourd'hui les trois grands observatoires de Paris, Meudon et Nancy. Alors le plus ancien, c'est celui de Paris même, qui était fondé dans les années 1660-70 par Louis XIV. En 1667, très exactement, auquel viendra se rattacher l'observatoire de Meudon en 1926, alors qu'il était fondé en 1876. Et enfin, en 1953, les deux observatoires de Paris et Meudon se verront rattachés le grand radiotélescope de Nancy, donc suite à un travail de l'école normale. Alors c'est un peu cette histoire qu'on va essayer de vous conter, ou plutôt de vous résumer, car elle est fort riche, elle est émaillée, bien entendu, d'épisodes de l'histoire de France, notamment la Révolution française. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir d'une part comment est né un observatoire sous l'impulsion à la fois des besoins réels des astronomes et des marins, des guerriers, enfin d'une série de personnes qui avaient besoin de mesures de plus en plus précises. Et en même temps, la besoin d'un État de centraliser ces mesures, de les affiner. Alors, racontons rapidement les débuts de cet observatoire. Il est né donc dans les années 1660, aux confins de Paris. Et c'était juste après la grande période où Galilée a développé un peu l'observation des astres. On s'est aperçu qu'il y avait dans le ciel des astres qui ressemblaient à la Terre. On a unifié la physique terrestre, la physique céleste. On a vu les phases de Vénus. Enfin, l'observation devint une composante très vivante de l'astronomie. Et on s'est aperçu que les croyances et la physique ancienne, ça ne suffisait plus. En tout cas, toute la science scolastique, on s'est mis à en douter et est venue au premier plan la science d'observation et d'expérimentation. Et c'est suite à ces besoins et au progrès de l'instrumentation également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps que la lunette fut inventée par Galilée, enfin par lui et puis ses prédécesseurs, en 1609... Après, on a perfectionné les pendules, hein, notamment la mesure par le pendule qui va mesurer la seconde. Et ce qu'on appelle le pendule régulateur, c'est Huygens en 1657 qui l'a mis en place. Merci. Et les besoins des marins. Suite à cet essor de l'astronomie, cet essor de l'astronomie, ces premiers travaux, on a décidé, les astronomes ont convaincu Louis XIV de créer un observatoire. Il y va, sire, disait-il, de la gloire de votre majesté. Et le roi a donc fondé l'Académie de la Compagnie des sciences et des arts vers 1665. Et il a été décidé de l'établissement d'un observatoire astronomique qui devait d'abord être un lieu de rencontre des académiciens avant de devenir un observatoire proprement dit. Alors, cette construction a commencé vers les années 1670, elle a duré jusqu'en 1683. Et le frère, je ne sais pas si vous connaissez l'architecte qui a fondé cet observatoire, enfin qui l'a bâti, celui qui a fait les plans, c'est Claude Perrault, le frère des comtes de Perrault, hein, c'est le frère du compteur, qui était lui-même d'ailleurs membre de l'Académie dans la section de physique. Et cet observatoire était construit au-dessus d'anciennes carrières qui deviendront plus tard les catacombes de Paris. Et donc c'était environné de... Ce premier observatoire était vraiment au sud, dans un coin très tranquille, avec autour il y avait des couvents, et dans le sud il y avait il y avait des moulins, il y avait de la nature, hein, c'était vraiment très très dégagé. Et alors, il y avait en Italie, il y avait les Cassini, qui étaient déjà célèbres parce qu'ils avaient déjà trouvé... Alors, les Cassini avaient trouvé les satellites de Saturne. Ils avaient trouvé également la fameuse division de Cassini, hein, le Cassini premier. Et ils avaient étudié notamment Jupiter, Mars et Vénus, les phases, les périodes de rotation. Enfin, il y a eu tout un tas de données qui existaient déjà et qui les ont rendus célèbres, ce qui fait que Louis XIV les a appelés pour animer cet observatoire. Et par la suite, Cassini 2, parce qu'ils ont fondé une véritable dynastie. Il y a eu Cassini 1er, il y a Cassini 2, 3 jusqu'au 4e, et Cassini 2 a été nommé par Louis XV, le premier directeur de l'observatoire. Ce Cassini était assez adroit, puisque lui et Huygens étaient les seuls qui pouvaient se permettre de regarder les astres dans des grandes lunettes qui faisaient 30 à 35 mètres de long, en fait, il y avait juste une lentille de 15 cm au bout, et on cherchait l'image avec l'oculaire. Et avec ça, ils ont fait des mesures extrêmement précises. Et alors, ce qui est intéressant, bon, ça c'est des premières observations, mais dès le départ, l'observatoire s'est illustré par une série de mesures d'astrométrie. Hein, c'est-à-dire qu'il est né le besoin de préciser les cartes, et Louis XIV avait besoin de cartes de France plus précises qu'autrefois. Alors il y a eu des premières mesures de géodésie ont été extrêmement limitées, d'abord autour de Paris. Hein, c'est le fameux Picard qui avait été en 1678, il a fait les premières mesures aux environs de Paris. Donc la première carte, par exemple, une première carte fut publiée en 1678 qui concerne les environs de Paris. Par la suite, on a publié une carte en 1693 lorsque l'on a établi, notamment par l'étude de la différence de longitude entre Paris et Brest, on a fini par s'apercevoir que Brest était, au lieu d'être à 8 minutes de Paris, il n'était plus qu'à 6 minutes. Et Louis XIV eut ce mot assez qu'on lui attribue. Il a dit « Je suis bien mal payé de la sollicitude que je porte à mes astronomes puisqu'ils m'ont réduit mon territoire d'un cinquième. » Hein, monsieur Campion, qu'est-ce que vous en pensez tout ça?
Oui, c'est ça, c'est bien ça. Louis XIV... avait mauvaise de voir que les astronomes avaient réduit son royaume. Et alors, vous parlez de Picard. Picard est né à la Flèche. Il est né dans les Pays de Loire, si ça n'existait pas en ce temps-là. Et il était curé, prieur de Rillé, dans l'Anjou. Et Picard a eu l'idée, c'est lui le premier qui a installé un appareil optique, des loupes, sur des appareils de mesure permettant de faire des mesures beaucoup plus précises. Et il a ainsi, lui, calculé la longueur d'une minute ou d'un degré de méridien entre Amiens et Paris. Il a trouvé des chiffres assez, assez précis puisqu'il est arrivé à avoir un tour de la Terre de 35 km, quelque chose comme ça. Alors il a fait ça dans les années 1678, et en même temps il y avait en Angleterre un monsieur que tout le monde connaît, c'est Newton. Newton réfléchissait à son problème de la gravité universelle. Et il a essayé de faire des calculs pour voir si sa théorie collait avec la pratique, mais il a été obligé d'interrompre, et il a mis sa théorie en sommeil pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même, parce qu'il n'avait pas la mesure précise du rayon terrestre. Parce que vous savez que la gravitation universelle, c'est la fonction du rayon de la Terre, etc. Alors, la Lune est à 60 rayons terrestres de la Terre. Quelle était la longueur exacte du rayon terrestre? Alors, il n'a pas pu continuer. Il tombait à côté, et ses calculs ne lui donnaient pas satisfaction. Et il a entendu un jour, il arrive à la Royal Society là-bas de Londres, et on lui dit, il y a un Français, monsieur Picard, qui a trouver la longueur du rayon terrestre avec une certaine précision. Et c'était en 1682. Et à ce moment-là, Newton a pris les chiffres, les résultats de Picard, et il a refait tous ses calculs, et il était étonné de voir que toute sa théorie collait, si on veut parler comme ça, collait avec la pratique, à tel point qu'il n'a pas pu, terminer son calcul. Quand il a vu que tout collait tellement, ce que depuis plusieurs années il imaginait, il a été obligé de faire la fin de son calcul par un ami, par un collègue. Et au fond, c'est comme ça qu'on peut dire que l'astrométrie de Picard à l'Observatoire de Paris a servi à Newton pour mettre au point sa théorie de la gravitation.
Là, c'est toute une histoire, en plus, parce qu'il y a des expéditions en Laponie, au Pérou, que nous a raconté monsieur Gapaillard.
Oui.
Et donc là, on va peut-être y revenir dans une autre émission, là, parce qu'il y a on a fait un interview de monsieur Gapaillard, en plus, et à sa conférence, qui est assez précise là-dessus, puisque Picard avait fait des mesures entre Paris et Amiens.
Oui.
Et il a fait, alors, il y avait deux problèmes. Il y avait un problème de mesure du rayon de la Terre, de mesure aussi des longueurs en longitude, mais aussi ce qui préoccupait beaucoup les gens à cette époque, c'était la forme de la Terre. C'est-à-dire que selon les théories de Newton, la Terre devait être aplatie comme une mandarine, et d'autres pensaient qu'au contraire, elle était allongée comme un ballon de rugby.
Ouais.
Et pour avoir le fin mot de l'histoire, il fallait mesurer donc un arc de méridien, c'est-à-dire un rayon qui part du pôle Nord à l'équateur, ou au pôle Sud, si vous voulez. Et s'il était plus ou moins long à différentes latitudes, on en déduisait la forme globale de la Terre. C'est pour ça qu'on a organisé après des expéditions au Pérou et en Laponie, donc à deux latitudes très très différentes, pour savoir si vraiment il y avait si vraiment il y avait une différence. Et c'est là que c'est Maupertuis d'ailleurs qui était envoyé en Laponie, et quand il est revenu, il est donc il avait la preuve, malgré d'ailleurs des erreurs hein, sur lesquelles on reviendra, il avait la preuve que la Terre était en forme de mandarine. Et c'est là que Voltaire aurait donc écrit bravo à l'écraseur de la Terre et des Cassini, car Cassini était pour la théorie contraire qui était opposée à celle de Newton. Et ça, c'était un peu invoqué comme une preuve des théories de Newton. Alors ça, c'est toute une longue histoire qui peut être intéressante aussi. Alors ce qu'il faut dire aussi, Picard était un champion, on pourrait dire aujourd'hui, des instruments. Et il a mis sur les télescopes, il a mis une série de dispositifs qui ont été utilisés un peu partout. Et on peut dire que ce savoir-faire qui était français et qui a placé la France au premier plan dans le monde, ça a été à une période très florissante. Hein. Donc l'astrométrie, ça c'était une des composantes qui a fini sur la géodésie, c'est-à-dire la connaissance des cartes, de la forme de la Terre, etc. Et il y a eu aussi, dans droite ligne, sortant de cette astrométrie, de cette période très... très très métrique, on pourrait dire, de l'astronomie, hein, le triomphe, ça a été bien entendu l'adoption du système métrique, qui est donc français, hein, par la Révolution française, et qui s'est imposé au monde entier. Et ça, c'est vraiment grâce à la qualité des travaux de l'Observatoire de Paris.
Je peux dire un petit mot.
Bien sûr.
Ce n'est pas la Révolution française qui a instauré le système métrique. Les calculs ont été terminés
en
1999, mais c'est en 1789, au moment de la convocation des États généraux au mois de mai, que les cahiers de doléances faisaient état d'unification des mesures pour que ce soient les mêmes mesures partout, qu'on puisse plus rouler les gens en leur faisant appliquer une mesure, voilà. Deux poids et deux mesures. Et ça a été une des premières revendications, et c'est Louis XVI qui a mis en branle, si on veut, ce système de ça a duré très longtemps. Il y a d'ailleurs pas longtemps un livre qui a été créé là-dessus, et que je peux demander aux gens de lire si ça les intéresse. C'est un livre qui s'appelle, il y en a deux, un qui s'appelle La Méridienne et l'autre s'appelle Le Maître du Monde, mais Maître, M-E-A-C-T-R-E, Maître du Monde de Denis Gedge. Ouais. C'est un livre très récent qui raconte toutes les péripéties de l'ombre et méchant qui mesure le méridien de Dunkerque à Barcelone.
Oui, alors évidemment, il y avait aussi, parallèlement à ces mesures d'astrométrie, il y avait des travaux d'observation d'astronomie proprement dite. Alors, il y a un épisode qu'on a raconté lors d'une précédente émission, qui était la confirmation de la vitesse finie de la lumière, hein, on avait dit à l'époque qu'on avait trouvé la vitesse de la lumière. En fait, c'était Olaus Römer, qui était un jeune astronome, il l'a pas mesuré, il a illustré le fait qu'elle était finie, en fait.
Et Römer est venu à Paris, ouais, avec Picard.
C'est Picard qui est allé chercher, ouais, ouais, lors de son... Mais je ne sais pas si c'était l'expédition de Laponie.
Il a voulu aller à Uranienborg, voir, essayer de trouver des vestiges ou des restes des travaux de Tycho Brahe.
Oui, l'observatoire de Tycho Brahe.
Il n'a pratiquement rien trouvé, mais il a ramené un jeune savant danois, ouais, et qui est venu à Paris travailler et qui a découvert justement que la lumière avait une vitesse finie.
Oui, alors ça a été évidemment une des gloires de l'observatoire de Paris. Alors si on s'était basé sur les connaissances qu'on avait à l'époque de la distance Terre-Soleil, on aurait trouvé quelque chose comme 215 000 km/s pour la vitesse de la lumière. On va pas rappeler le procédé, hein, c'était basé sur l'observation des mouvements des satellites de Jupiter, qui avaient, selon que la Terre était plus près de Jupiter ou à l'opposé de son orbite, hein, qui avaient 20 minutes d'écart entre ce qui était prévisible par la périodicité du phénomène. Donc on en a déduit que la lumière mettait 20 minutes pour parcourir l'orbite terrestre. Deux fois le rayon, le diamètre de l'orbite terrestre.
300 000 km en...
Qui fait 300 000 km
en... 300
millions de kilomètres en 1000 secondes.
Oui, en 1000 secondes.
Voilà. Et donc on en a déduit... Enfin, aujourd'hui, on dirait que ça fait 300 millions de kilomètres, mais à l'époque, on croyait que le Soleil était plus près. D'ailleurs, il y a eu des expéditions qu'on racontera également pour montrer, enfin pour connaître ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil qu'on connaissait mal à l'époque. Hein. Alors ça aussi, c'est une autre histoire. Alors évidemment, dans une deuxième partie, là, on vous racontera encore ce qui s'est passé après, pendant la Révolution, les travaux de Le Verrier, etc. Pour l'instant, on va déjà finir cette première grande époque de l'Observatoire de Paris, puisque ça s'est poursuivi donc avec donc il y a eu cet épisode de la vitesse de la lumière. Il y a eu toutes les cartes qui se sont succédées après, qui ont abouti à une cartographie très précise de la France, qui fait que la France a été le premier pays au monde à posséder une carte exacte. Voilà. Alors, cette première période s'achèvera à peu près à la Révolution française, et on peut vous raconter cela peut-être tout à l'heure. Hein. Alors, bon, je crois que... Bon, cher Raphaël...
En effet, nous reparlerons tout à l'heure de ce voyage dans le temps concernant la coupole de Paris. En attendant, je vous propose une virgule musicale avec Dave McKenna et Swinging on the Star. C'était une chanson de Dave McKenna avec Swinging on the Star, et maintenant une autre rubrique astro-pratique avec Régis Larcher.
Alors Régis, mon cher, nous allons parler filtre, vaste sujet. Alors je ne sais pas du tout de quel filtre tu vas parler, parce que je crois qu'il y a des filtres qu'on met à l'entrée des télescopes, hein, sur l'objectif, et puis il y a des filtres qu'on met à l'oculaire afin d'éliminer les lumières parasites, par exemple, ou de sélectionner certaines longueurs d'onde. Enfin, tout cela, ça fait l'objet d'une astronomie un peu moderne qui est accessible maintenant aux amateurs. Alors quels sont ces filtres ?
Alors déjà, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi filtrer, je dirais, de la lumière, parce qu'en astronomie, on en a déjà très peu. On utilise des télescopes le plus grand possible pour capter le maximum de lumière. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as souligné, il y a de plus en plus de pollution lumineuse, donc on peut utiliser certains filtres pour diminuer ces effets négatifs, pour augmenter un petit peu le contraste du ciel noir, le fond du ciel. Et puis, il y a des filtres qui sont évidents pour chacun, notamment les filtres solaires. Je vais commencer un petit peu par cela, puisque ce sont les plus denses, puisque ce sont des filtres qui ne laissent passer, pour certains, qu'un 1/10 millième seulement de la lumière solaire. Il y a les fameux filtres que l'on trouve avec les instruments du commerce, type 115-900 ou petites lunettes, les filtres Sun, souvent qui sont filetés, qui sont rouges, que je déconseille vivement à l'utilisation, parce que ce sont des filtres que l'on place au foyer du télescope, c'est-à-dire à l'endroit où va se former l'image, à l'endroit où ça va chauffer le plus en fait. Toute la lumière du soleil qui va être captée par le télescope va être concentrée dans cette zone, et on aura un échauffement du morceau de verre en fait qui est teinté, qui constitue ce filtre, qui risque de le faire exploser. Alors si vous regardez trop longtemps le soleil en continu avec ce type de filtre, vous risquez un éclatement du filtre. Il va pas vous voler en morceaux dans les yeux, bien évidemment, parce qu'il y aura la lentille de l'oculaire entre l'œil et le filtre, mais par contre vous avez un risque d'être brûlé par le soleil, donc c'est quelque chose à proscrire. Il est beaucoup plus souhaitable d'utiliser ce qu'on appelle des filtres pleine ouverture, qui donc se mettent à l'entrée du télescope, à l'ouverture du tube, et qui sont en fait du même diamètre que l'optique du télescope. Il y a trois types de filtres pleine ouverture pour le soleil. Les filtres en Mylar, alors c'est une sorte de papier argenté, un petit peu style papier aluminium. Ils en utilisent beaucoup à la NASA pour recouvrir les satellites, on en voit partout.
C'est du plastique en fait, hein, je crois. Il y a du plastique avec un métal dedans.
Honnêtement, je ne saurais pas te dire.
Je crois même que c'est de l'aluminium, non, je ne suis pas sûr.
Ouais, c'est un matériau, je pense, qui est dérivé de la recherche spatiale, en tout cas, pour protéger à l'origine les satellites des échauffements dus aux rayons solaires, quoi. Alors ce Mylar a l'avantage d'être très peu onéreux, on peut s'en procurer en feuilles, on découpe la dimension dont on a besoin, et puis on fait un espèce de petit bouchon qu'on va placer à l'entrée du télescope, en veillant bien à ce que le filtre soit plus grand, bien sûr, que l'optique, et en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de rayons du soleil qui arrivent à passer, malgré le filtre, sur les bords, par exemple. Il donne un aspect assez orangé de l'image du soleil, ce qui est donc, je dirais, en accord avec ce qu'on s'attend un petit peu à voir, mais qui n'est pas tout à fait en accord avec la réalité. Pour être un peu plus en accord avec la réalité, il faudrait utiliser du filtre qu'on appelle AstroSolar. Alors, je ne sais pas trop si c'est une marque ou une catégorie de Mylar. C'est un produit qui est assez nouveau, qui a été sorti notamment pour l'éclipse de soleil. et qui, je dirais, garantit au niveau de sa qualité optique à lambda sur 4 minimum pour les puristes.
Lambda et sur 4, c'est-à-dire alors, un quart de longueur d'onde.
C'est-à-dire que le plus gros défaut admis par ce filtre est égal à un quart de la longueur d'onde dans laquelle on va regarder le soleil.
C'est-à-dire dans les 5000 angstroms, c'est-à-dire 5000 dix millièmes de micron,
un quart de ça.
Où ça ferait donc 0,5 micron à peu près. Un demi-micron, donc de un défaut. Quart d'un demi-micron, ça fait à peu près un dixième ou deux dixièmes de micron.
C'est-à-dire que s'il y a des bosses dans l'épaisseur en fait de ce film, on va avoir une altération de la qualité de l'image qui se verra pas au premier abord, mais qui pourrait être péjorative, je dirais, pour une observation très assidue en haute résolution des taches solaires ou des facules ou des granulations. Alors ce filtre, lui, donne un aspect plutôt blanc bleuté du soleil, qui est assez proche de ce qu'on devrait s'attendre, puisque le soleil, il est clair blanc, bien évidemment, c'est une lumière blanche. Et dernier point, donc, en ce qui concerne les filtres solaires, on a les fameux filtres pleine ouverture en verre, qui sont beaucoup plus onéreux, parce que c'est un support en verre sur lequel on a déposé une pellicule, donc traitée pour éliminer toutes les radiations nocives. Ce sont des filtres qui sont généralement de bonne qualité, à l'exception près d'un petit détail que j'ai pu constater sur certains d'entre eux, en tout cas, la présence de petites piqûres. Quand on regarde le filtre, quand on le tient à bout de bras et qu'on regarde le soleil comme ça, on peut voir des micro-piqûres qui, en fait, laissent passer la lumière du soleil. Alors, si vous regardez avec ce type de filtre et ces micro-piqûres, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais vous risquez d'avoir mal aux yeux le soir, un peu comme si vous avez pris un coup d'arc pour les gens qui font de la soudure à l'arc. Et dans les astronomes, il y en a qui en font. Alors donc pour conclure avec ces filtres en verre,
oui, ne serait-ce que pour construire des télescopes.
Absolument. Pour conclure avec ces filtres en verre, donc je conseillerais de les utiliser associés avec un filtre jaune vert qui va encore limiter l'intensité lumineuse et qui va permettre de supprimer d'un côté et d'autre du spectre les rayons nocifs qui sont les ultraviolets et aussi les infrarouges. Et puis pour gommer définitivement ces piqûres, on peut utiliser un marqueur, tout simplement un feutre noir ou inacrylique qu'on va apposer à l'endroit des dites piqûres. Dans le même esprit en fait que les filtres Sun, on trouve également sur les petits télescopes du commerce des filtres Moon qui sont d'un aspect vert, qui donnent la Lune en tout cas un aspect vert. Ces filtres sont de qualité moyenne en général. Il serait peut-être plus intéressant d'utiliser un filtre neutre, donc de teinte grise en quelque sorte, qui va diminuer l'intensité lumineuse, mais sans altérer sa couleur, sans altérer la qualité en fait de l'image. L'avantage de certains de ces filtres neutres, gris neutre, c'est qu'on peut en régler l'intensité. En fait, c'est un système de deux bagues qui coulissent l'une sur l'autre, avec un système progressif qui peut nous permettre de filtrer de 5% jusqu'à peut-être 40 ou 50% de la lumière lunaire. Parce que bien évidemment, quand vous regardez la Lune au foyer du télescope, vous avez besoin de filtrer énormément, mais quand vous allez grossir avec un oculaire pour regarder un détail bien précis sur la surface lunaire, vous allez avoir besoin d'un maximum de lumière parce que vous allez avoir une perte de cette lumière avec le grossissement. Donc là, il faudra un filtre beaucoup moins intense. On trouve également sur le marché des filtres colorés qui se vissent un petit peu comme les filtres livrés sur les 115-900 ou les appareils, je dirais, bas de gamme. Des filtres colorés qui se vissent donc sur les oculaires, qui portent souvent un numéro, un W quelque chose. C'est en fait des filtres Varten, ce sont des filtres de bonne qualité qui sont en vert également, teintés dans la masse. Et ces filtres, on les utilise pour deux applications. D'abord, en observation visuelle, on va s'en servir pour rehausser un petit peu le contraste des surfaces planétaires lorsqu'on va vouloir observer Jupiter ou Saturne, par exemple. Il peut être bon avec un oculaire, je dirais, donnant un grossissement moyen par rapport à votre instrument. Il peut être bon d'insérer un filtre jaune pâle ou un filtre vert sur ces deux planètes pour accentuer un petit peu le contraste entre les bandes nuageuses, par exemple, et le reste du globe, ou l'assombrissement polaire sur Jupiter ou sur Saturne également. Sur Mars, quant à lui, il vaudrait mieux utiliser un filtre plutôt orangé, pour faire ressortir vraiment les régions les plus sombres de la planète, hein, c'est-à-dire les grands continents entre guillemets en fait qu'on peut observer. Et également on peut utiliser un filtre vert sur Mars. Pourquoi ? Parce que à certaines périodes de l'observation, le matin sur Mars et le soir sur Mars, on peut observer des brumes qui vont apparaître en fait sous la forme de halos blanchâtres de part et d'autre du globe de Mars. Et ce filtre vert va aider à faire ressortir ces brumes matinales. C'est en fait l'atmosphère de Mars qui se condense en fines gouttelettes d'eau et qui donne des nuages d'altitude, hein, ce qu'on appellerait un vulgaire brouillard chez nous. Hein. Pour Vénus, quant à elle, on peut utiliser un filtre bleu, voire un filtre violet, qui devrait permettre, avec de bons télescopes et surtout de très bonnes conditions d'observation, parce que Vénus est souvent assez basse sur l'horizon, qui devrait permettre donc de déceler éventuellement des nuages dans l'atmosphère de cette planète. Alors ces mêmes filtres, on peut également les utiliser pour la photo, notamment en noir et blanc, hein, puisque la photo couleur avec un filtre bleu par exemple, ça ne va pas donner quelque chose d'assez réaliste. Mais par contre, si on utilise un film noir et blanc associé à un filtre rouge ou alors associé à un filtre bleu, à condition d'augmenter le temps de pose pour compenser l'absorption de la lumière due à ce filtre, eh bien on peut obtenir des résultats assez spectaculaires, notamment sur Mars, où ça va bien faire ressortir toutes les régions de Sirius Major et compagnie, et sur Jupiter également, ça peut être assez positif. Alors ce dont parlait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire les filtres anti-pollution, il en existe différents.
J'allais
types.
Dire,
on y vient,
peut-être en parler.
On y vient. ces filtres anti-pollution, donc en fait, c'est un produit assez récent, donc qui est apparu avec le besoin d'augmenter le contraste du fond du ciel, faire apparaître le ciel un petit peu plus noir, surtout quand on habite en ville ou quand on n'est pas vraiment aidé par les lampadaires. Ce sont des filtres qui fonctionnent en fait en éliminant les longueurs d'onde dans lesquelles émettent les lampadaires, c'est-à-dire que les lampes à vapeur de mercure émettent leur lumière dans une longueur d'onde bien précise. On arrive à fabriquer des filtres qui rejettent toutes ces longueurs d'onde nocives et ne laissent passer que les longueurs d'onde justement où émettent les nébuleuses
qui sont
et les galaxies.
En fait à certaines longueurs d'onde ou à certaines raies qui reviennent même.
Donc, en fait, ce sont des produits qui sont quand même assez de technologie assez avancée, puisque pour fabriquer un tel filtre qui laisse passer juste une longueur d'onde bien précise, il faut quand même une bonne technologie. Ils sont donc ces filtres de plusieurs types. On a les filtres à large bande qui vont donc laisser passer une grande partie du spectre émis par les nébuleuses. Alors il y a des filtres de chez Celestron, de chez EMI, de large bande, de chez Lumicon aussi, qui est une firme américaine qui fait de très bons produits. Et donc ces filtres ont un petit inconvénient, c'est qu'ils éteignent un petit peu les étoiles, c'est-à-dire qu'on perd à l'observation et à l'usage de ce filtre une magnitude en général.
C'est-à-dire on perd à peu près une luminosité, enfin une magnitude, c'est à peu près un cinquantième de luminosité ou quelque chose comme ça.
Disons que par rapport à un télescope qui va vous permettre de voir des étoiles vraiment très faibles,
on perd la
catégorie la plus faible sera perdue. Mais il y a quand même un gain assez important puisque la nébuleuse va être beaucoup plus évidente, je dirais, à l'observation, à l'œil, et d'autant plus à la photographie. Mais même déjà à l'œil, on arrive à voir des détails grâce à ces filtres que l'on ne soupçonne pas sinon si on ne les utilise pas. Il y a même un petit paradoxe quand même de cette technologie, puisque c'était pour contrer la pollution lumineuse. On se rend compte qu'à l'usage, lorsqu'on utilise ces filtres anti-pollution ou ces filtres à large bande en rase campagne, donc dans des régions exemptes de pollution lumineuse, ils font quand même ressortir certains détails, parce que ça augmente encore le contraste du fond du ciel. Ils font quand même ressortir certains détails qu'on ne peut pas discerner sans l'usage de tels filtres. Il y a également des filtres, je dirais, plus pointus, qui sont des filtres interférentiels, donc qui sont centrés vraiment. Alors, à l'inverse, au lieu de laisser passer toute la lumière, excepté la lumière des lampadaires, ces filtres interférentiels ne vont laisser passer qu'une seule longueur d'onde, donc dans un domaine spectral bien défini. Par exemple, si on veut observer une nébuleuse planétaire, on va utiliser un filtre interférentiel oxygène 3, qui est donc la composante principale des nébuleuses planétaires, et qui va nous permettre de faire ressortir ainsi ce genre d'objet.
C'est-à-dire les nébuleuses planétaires, les nébuleuses qui sont formées par les bouffées
lancées par les étoiles d'une étoile,
en train de mourir.
Avant sa mort, quelques millions d'années avant sa mort. Il y a même une petite astuce qui consiste en fait dans une région où on soupçonne la présence d'une nébuleuse planétaire. On utilise ce filtre oxygène 3, on le place non pas comme il doit être mis, c'est-à-dire vissé à l'arrière de l'oculaire, mais on le tient entre les doigts devant l'oculaire. On l'intercale entre l'oculaire et son œil et on le fait, on regarde ainsi alternativement avec et sans le filtre. Ce qui va se passer, c'est que si la nébuleuse planétaire est bien dans le champ de vision et si elle est à peine perceptible sans le filtre, l'effet d'observer avec et sans le filtre va la faire en quelque sorte clignoter. Le filtre va éteindre les étoiles environnantes et faire ressortir la nébuleuse, et inversement, sans filtre, on aura plus d'étoiles et moins de nébuleuses. Donc cette nébuleuse, on va pouvoir la repérer grâce à ce genre de petite manip. Dernier point pour en finir avec les filtres. Il existe des filtres spécialisés sur une bande bien précise. On a même certains filtres qui sont spécialisés pour l'observation des comètes, par exemple, c'est-à-dire que sachant la composition chimique de ces astres, on a pu fabriquer des filtres qui ne laissent passer que les raies d'émission des comètes. Ça peut donner un petit coup de main aux spécialistes de la recherche des comètes. Et puis, en matière de photographie, que ce soit photographie argentique ou photographie CCD, puisque c'est très à la mode, on utilise souvent ce qu'on appelle la méthode trichromie ou la méthode LRGB, qui font appel également à des filtres colorés. Ces filtres sont souvent au nombre de 3, un filtre bleu, un filtre vert et un filtre rouge. Et on va donc prendre une photo. Alors si c'est de la photographie argentique, on va faire des photos en noir et blanc. Si c'est une caméra CCD, de toute façon, l'image étant numérique, c'est du 1 ou du 0, c'est donc du noir et blanc. On va faire donc une photo du même objet à travers chaque filtre. Et ensuite, alors soit on fait appel à un laboratoire photographique pour recombiner sur une même photo le résultat de ces différents clichés. Et beaucoup plus récemment, et je dirais beaucoup plus à la portée de tous maintenant, on utilise un ordinateur. On va tout simplement scanner notre photo qui a été prise à travers un filtre bleu, notre photo qui a été prise à travers un filtre vert, et notre photo qui a été prise à travers un filtre rouge. Et puis, on va les recombiner grâce à l'ordinateur pour en faire une photo couleur, ce qui donne souvent des résultats assez spectaculaires. Voilà, maintenant je m'adresserai plus particulièrement aux fabricants pour leur demander de nous fabriquer un filtre anti-nuage, parce que je crois qu'on en aurait bien besoin en ce moment.
Oui, ta conclusion était assez drôle. Par contre, il y a une question qu'on se pose tous, les fameuses lampes, comment lutter contre la pollution dont on a parlé. Les lampes à sodium, tout va bien. Elles émettent dans une seule raie, ou pratiquement.
Oui, ce serait facile à filtrer.
Facile à filtrer. Par contre, les lampes au mercure, c'est une catastrophe, puisqu'elles émettent sur tout le spectre. Et alors là, si on les filtre, on n'a plus de lumière du tout.
Voilà.
Mais donc ça nous fait un filtre non pas anti-nuage mais pro-nuage là. Voilà, merci Régis.
Et tout à l'heure nous vous avions parlé donc de la naissance de l'Observatoire de Paris et de toute sa période florissante en astrométrie avec notamment l'établissement des cartes géodésiques. À présent nous allons évoquer la suite et notamment la période révolutionnaire de l'ère de Le Verrier. Toujours en compagnie de Daniel Vorling et de Louis Campion et Régis Larcher qui nous parlera de la coupole Arago.
Voilà, merci Raphaël. Alors bien sûr, on vous a quitté tout à l'heure avec un observatoire de Paris, la direction des Cassini. Alors je vais quand même rappeler quelques dates pour fixer un peu les choses. On n'est pas de bons historiens, mais il faut des fois se remettre les choses en terre. Donc les Cassini, donc les Cassini 1, 2, 3 et 4 qui se sont succédés à la tête de l'Observatoire de Paris. Donc c'est dans les années, dès qu'il a été créé, 1667, il a été décidé. En 1665-67, il a été construit de 71 à 83. Et dès 1671, Cassini premier, donc qui était italien, a été appelé par Colbert. Il avait déjà découvert la division de Cassini, comme on dit, et puis des satellites de Saturne, etc. Alors, les satellites de Jupiter, je rappelle qu'ils ont été découverts par Galilée. Hein. Et puis, il n'y a pas que Galilée, d'ailleurs. Les Cassini 2, 1718-1756, Cassini 3, 1756-1784, et Cassini 4, 1784-1793. Vous l'avez deviné, Cassini 4, le dernier de la lignée, est à cheval sur l'événement qui a marqué notre pays, puisque ça a été la fameuse Révolution française, 1789, donc 93, l'instauration de la Terreur, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Alors, plusieurs choses. D'abord, l'Observatoire de Paris, qui était un observatoire royal, ben on va l'aimer un petit peu moins. Le fameux Cassini 4, qui était à la direction de cet observatoire, eh ben sur le principe de l'égalité, on va décréter que les astronomes ou les professeurs astronomes sont à égalité avec les élèves. Et puis, il y a 3 élèves qui vont être recrutés en 1780, qui étaient recrutés en 1785, qui sont noués, Pémi et Ruel, dont Ruel d'ailleurs était un véritable aventurier, était vraiment un type pas très très scientifique, et bien ces trois-là plus Cassini sont mis à pied d'égalité, ce qui ne va pas beaucoup plaire à Cassini, qui va démissionner quelques temps après. Il a été remplacé à ce moment-là par Alexis Bouvard, qui s'est illustré notamment par des calculs qui l'ont fait passer pour un peu un précurseur de Le Verrier dans la découverte de Neptune, comme on le dira tout à l'heure. Mais bon, c'est Émile Liais d'ailleurs, qui est un astronome qui était à la fin de l'Observatoire de Paris, qui était un grand météorologue, qui affirme ça dans un de ses livres. Et il y a eu toute une polémique autour de cette découverte de Neptune. Il n'y a pas eu que celle entre Blanchard et Le Verrier. Il y a eu aussi l'épisode entre Le Verrier et Adams, qui était un prédécesseur anglais, hein, monsieur Campion?
Oui, Adams, oui.
Voilà. Alors, cet intermède un petit peu brumeux pour l'observatoire, tout de suite va être suivi par la nomination de Lalande en 1795, qui va faire 5 ans. Hein. Alors, vous avez toute la succession des Lalande, Méchain, 1800-1804, Delambre, 1804-1822, le fameux Bouvard, qui revient en 1822 jusqu'en 1849, et... Ensuite, nous avons la grande période Arago. À la mort de Bouvard, Arago prend la direction de l'Observatoire en 1843, alors qu'il était depuis 1834, il était directeur des observations et il va faire plein de choses. Alors, on va reprendre un petit peu ça, rapidement. Alors, je reprends donc à la période post, juste au moment de la Révolution, des années 1790, là, la Convention va d'abord... L'Académie des sciences va en faire un petit peu l'Institut national, parce que l'Académie royale, on n'aime pas le mot royal, on enlève royal, et ça devient l'Institut national, ce qui deviendra l'Institut de France, qui va maintenant, enfin l'Institut de France aujourd'hui regroupe les académies, l'Académie française, l'Académie des sciences, etc. Alors, cet Institut national va essayer de gérer, enfin va avoir une certaine autorité sur l'observatoire, mais pas réelle, en fait. Alors, par contre, la Convention va décréter un nouvel organisme qui s'appellera le Bureau des Longitudes et qui a le décret assigne au Bureau des Longitudes la mission de développer l'astronomie au profit des sciences, de la navigation et de la géographie. Et on retrouve ce souci de rendre l'astronomie utile et de naviguer en quelque sorte, entre guillemets, sur ce qui a fait la grandeur de la France, hein, c'est cette astronomie très précise. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si on a pu faire de la topographie ultra précise, de la géodésie, c'est parce que les instruments étaient remarquablement précis. Et là, il y a l'influence de Picard et toute l'école française. Hein. Alors, donc Lalande, on n'en parle pas beaucoup, il a fait de l'astrométrie. On a eu donc Méchain, Delambre, tout ça, ce sont un peu des champions de la géodésie, Bouvard. Et puis arrive Arago. Alors Arago, il a à son actif pas mal de travaux sur la physique stellaire, solaire aussi, la physique atmosphérique. Et là, on voit poindre une des vocations de l'Observatoire de Paris qui va se traduire longtemps après. L'Observatoire deviendra l'ancêtre, en quelque sorte, de la météorologie nationale. L'Observatoire se mettra à travailler dans le domaine de la météo. La physique solaire et atmosphérique, c'est ce qui va également être l'apanage du fameux Émile Liais, qui était de professeur, je crois, dans les écoles navales aussi, et dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, autre intérêt d'Arago, c'était un excellent professeur, et c'était aussi donc il a fallu, pour ses cours, il a fallu les déménager, et ils ont eu lieu dans la grande coupole, enfin. C'était et quelqu'un qui savait flairer on dirait aujourd'hui, les bons coups, c'est-à-dire qu'il avait tout de suite remarqué le nommé Le Verrier, il l'a mis en selle et lui a confié la suite des travaux qui avaient été entrepris par Bouvard. Et Bouvard s'était basé sur la méthode des perturbations, qui était fort laborieuse. Et c'est ce qui fait dire à certains qu'il avait raison et que c'est lui qui aurait découvert Neptune. Et que si Le Verrier s'était basé sur plus de perturbations, s'il n'avait pas éliminé tout ce qui le gênait, il n'aurait peut-être pas découvert Neptune. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant des calculs faux, finalement, il est arrivé à la solution peut-être plus vite que ses prédécesseurs. Bon, tout cela, on vous en parlera une autre fois, parce que c'est un sujet qu'on connaît mal aujourd'hui, mais enfin que nous, la société, on n'a pas creusé pour le moment. On vous en parlera quand on en saura un peu plus. Et alors, autre personnalité que Arago met en selle, c'est le fameux Fizeau, de l'effet Doppler-Fizeau, et surtout Foucault. Le fameux Foucault, alors Foucault c'est quelqu'un d'extraordinaire puisqu'il est un peu multiscient. Il s'est d'abord rendu célèbre en mettant au point un procédé d'argenture chimique des miroirs, par la fameuse réaction au miroir d'argent qui fait que le glucose se précipite, hein, quand on mélange un sucre réducteur comme le glucose avec du nitrate d'argent, l'argent métallique se précipite sur le verre. Alors l'avantage, c'est qu'on passe de miroirs métalliques. Avant, on faisait des télescopes en polissant des miroirs métalliques.
Bronze. C'était du bronze.
C'était du bronze, voilà. Alors dès qu'il fallait le rénover, il fallait en même temps refaire la surface ultra précise. Il fallait refaire le miroir en quelque sorte. Et d'ailleurs, les grands miroirs de Lord Rosse, etc., étaient des miroirs en bronze. Par contre, depuis que le procédé de Foucault, donc ça date, c'est des 1850 par là, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle, eh bien, ce procédé va permettre de faire des miroirs beaucoup plus grands et qui vont être stables. Et puis ils vont pas s'abîmer. Enfin, la forme va pas s'altérer. Il suffira de refaire, de nettoyer, de remettre de l'argent dessus. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à la Société d'Astronomie, nous avions fait nos miroirs de télescope à une certaine époque.
Oui, Monsieur Lasseur a fait beaucoup de miroirs de télescope argentés, justement.
Ben c'est suite à... Enfin, c'est pas suite aux travaux de Foucault. C'est que nous avions décidé que l'aluminure était trop chère. Et on est allé voir des miroitiers dans la région. On s'est dit, ben, comment ils font pour faire des miroirs en argent? On a finalement suivi leur procédé industriel qui était parfaitement au point. Et on a remis à l'honneur, en quelque sorte, un procédé ancien et très fiable. Évidemment, plus fragile que les miroirs illuminés. On vous en parlera aussi, ça, dans une rubrique astropratique. Ça me donne une idée. Alors, par contre, le Foucault était aussi célèbre par son fameux pendule où il a essayé de prouver le mouvement de la Terre. Et enfin, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a montré... Oui, monsieur Campion ?
Les courants de Foucault en électricité.
Il a travaillé...
Les courants de Foucault, voilà. C'est des courants parasites qui échauffent toutes les pièces métalliques qu'il y a dans les moteurs, qu'il y a dans tous les... C'est Foucault qui a trouvé ça, lui.
Voilà. Donc il a
travaillé un peu de tout, quoi.
L'électromine magnétisme.
Je crois même savoir qu'il a fait des expériences dans sa cave, je crois, pendant les éclipses de lune, pour mesurer une déviation du champ de gravité.
Oula, oui, on va vérifier ça, oui.
J'ai lu ça quelque part.
Alors surtout, ce qu'il a montré, c'est que la vitesse de la lumière est plus grande dans l'air que dans l'eau. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Avec ça, bah, tout simplement, on prouve la nature ondulatoire de la lumière. Ce qui est quand même quelque chose d'étonnant, donc au milieu du siècle dernier. Alors, par ailleurs, Arago va faire installer, à partir de 1845, il va faire procéder à la réalisation d'une grande coupole. Cette fameuse coupole Arago, et malheureusement cette lunette ne sera réellement en chantier qu'à sa mort, et il n'aura pas le bonheur, ou alors non, c'est après sa mort qu'elle fut achevée cette coupole, et qu'on a mis une grande lunette de 38 cm avec un objectif de 38 cm, une distance focale de 9 mètres, que Régis a eu le bonheur, nous l'avons vu hein, quand on a été au voyage à Paris, mais nous n'avons pas eu le bonheur, mon cher Régis, nous autres, grands jaloux que nous sommes, mettre notre œil à l'oculaire.
C'était un moment vraiment exceptionnel, oui, que de regarder dans cette lunette, un moment exceptionnel aussi bien de par son histoire, puisque c'est vrai que c'est une lunette qui a une histoire, comme tu as su le présenter, et puis aussi parce que c'est un magnifique instrument, de par ses dimensions, qui malheureusement n'est pas dans un état, je dirais, d'entretien au top, mais qui donne en tout cas de très très bonnes images, puisqu'on a pu y aller. On était donc 5 membres de la Société d'Astronomie de Nantes à avoir eu la chance d'accéder un soir à cet instrument formidable. Et chance double chance, je dirais, puisqu'en fait, on est tombé le soir où il y avait un passage d'un des satellites de Jupiter qui était Ganymède, qui passait juste devant le disque de Jupiter. Et on a pu voir très nettement se détacher donc le satellite de Jupiter, Ganymède, sur le disque jovien, ainsi que son ombre qui le précédait. Et donc on a pu observer avec cet instrument. Malheureusement, il n'est pas motorisé. Il y avait une motorisation électrique qui aujourd'hui n'est plus en service. Donc c'est vrai que c'est un petit peu sportif également de manipuler un tel engin. Il y a une espèce d'inertie quand vous prenez le tube de l'instrument pour pouvoir le déplacer et pointer un objet. Vous prenez pas le tube comme un vulgaire petit télescope, vous le prenez à bras-le-corps. Hein, vous êtes...
Ça s'appelle l'inertie.
Oui, voilà. Alors,
parce que c'est parfaitement
équilibré. L'image, oui, c'est parfaitement équilibré, mais c'est vrai que pour déplacer, pour donner une impulsion à cette masse énorme, il faut carrément presque se suspendre à l'instrument et puis donner un grand coup. Alors il y a tout l'ensemble en fait tout l'ensemble de la coupole qui tourne avec l'escabeau, enfin l'escalier sur lequel on se retrouve pour observer. C'est assez impressionnant. Ça, par contre, c'est motorisé, la coupole, heureusement, parce que vu le volume qu'a fait, ça serait quand même énorme à tourner. Et donc, c'était vraiment une observation assez exceptionnelle et émouvante qu'on a eu l'occasion d'effectuer. Malheureusement, on n'a pas pu regarder toute la nuit parce que ça s'est couvert. On a fait un petit tour sur la Lune. On a donc utilisé des grossissements assez importants puisqu'on était à plus de 600 fois avec cet instrument. Et ce qui est vraiment, vraiment étonnant un petit peu pour quelqu'un qui connaît bien l'optique, c'est qu'à 600 fois, bon, ce qui est peut-être modeste pour un instrument de cette taille, mais il n'y a pas une aberration chromatique du tout.
Mais parce que nous, on plafonne à peut-être 200 fois, 100, oui, 200 fois. Oui.
Un bon instrument, une bonne lunette à 200, 300 fois commence déjà à avoir un petit peu ses limites. Là, à 600 fois, on était dans des conditions parfaites d'observation qui n'étaient limitées que par la turbulence, en fait. Mais l'optique, qui date, je crois, de 1870, l'optique est encore en parfait état de marche.
Alors, oui, ben ça, c'est une aventure vécue. Et je crois que tous ceux qui ont... qui un jour ont mis l'œil à une lunette ont une émotion assez importante. Hein. Je crois que ça vaut le coup
d'œil. Oui, c'est vraiment un coup d'œil.
Alors, juste un petit point qu'on a oublié de vous rappeler hein, tout à l'heure à propos du système métrique. Il faut savoir que les astronomes, on leur a jamais contesté la mesure du temps. On a toujours dit qu'ils étaient les maîtres du temps. Par contre, pour ce qui est du mètre, enfin de la mesure des longueurs, on a adopté le 10 000e, la 10 000e partie. La 10 000e partie du quart de méridien terrestre, hein, ce qui est devenu le mètre. Et pour ce qui est de la masse, on a confié à Lavoisier ce travail qui était chimiste et qui était vraiment le champion de la chimie quantitative, qui était également un homme extraordinaire. Alors on revient rapidement à Arago et son successeur, qui était son protégé, mais il avait raison, hein, et qui était Urbain Joseph Le Verrier, qui était né à Saint-Lô, le 11 mars 1811, donc c'est un Normand, Basse-Normandie, je crois. Et il travaillait au laboratoire de chimie de Gay-Lussac. Il faisait de la chimie physique, chimie de l'atmosphère, etc., la dilatation. Il était issu de l'école polytechnique, c'était un esprit brillant. Et il voulait être répétiteur de chimie à l'école polytechnique. Et en fait, il n'a eu qu'un poste de répétiteur de géodésie, astronomie et machines. Et c'est ce qui l'a propulsé à la tête de l'observatoire donc de Paris à la suite d'Arago. Et alors là où il a fait beaucoup parler de lui, ça a été la découverte donc de Neptune, sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui se trouve donc en 1846. C'était un moment, lui il avait fait des calculs et il avait écrit à l'astronome Galle à Berlin pour lui demander d'observer un astre nouveau qu'il avait détecté du fait du mouvement des autres astres à une position que Galle confirmera par la suite. Et là c'est la grande découverte de Neptune, le triomphe pourrait-on dire de l'astronomie voilà, tout à fait. Et alors par la suite il s'est illustré mais d'une façon beaucoup moins passionnante parce qu'il est apparu comme un véritable dictateur. Alors il faut, à sa défense, il faut quand même dire, enfin à son bilan positif, le fait qu'il a obtenu une augmentation de traitement pour les astronomes parce qu'il trouvait qu'ils étaient vraiment trop mal payés. Il a quand même obtenu cela de la part des gouvernements. Alors ça, c'est comme ça, on l'oublie un peu trop. Hein. Et alors, par contre, il a été extrêmement dur avec son personnel. Alors, bien entendu, on vous a raconté cela d'une manière un peu rapide, parce que c'est un tel bonheur, cette histoire de l'astronomie. Alors, c'est pas seulement l'Observatoire de Paris, mais c'est l'astronomie française. Je vous invite à découvrir cela sur internet. Alors je vous donne pas l'adresse du site parce que je ne l'ai pas par cœur. C'est pas sur notre site, c'est un autre, mais vous trouverez, mais c'est sur le site de l'Observatoire de Paris tout simplement, hein, et vous chercherez toute cette histoire là si cela vous intéresse. Voilà, on a été un petit peu plus long que prévu, mais je pense que ça valait le coup. Alors on va encore vous en donner d'autres détails de cette épopée avec des petits zooms sur l'un ou l'autre épisode. Voilà.
Alors en effet, merci Daniel et Louis. Avant de vous céder à nouveau la parole pour notre rubrique un peu d'histoire avec l'évocation de l'expérience d'Eratosthène, je vous propose une petite pause musicale avec Def Leppard, Ride Into the Sun. Donc, monsieur Campion, les Grecs savaient que la Terre était ronde. Et un beau jour, ils ont décidé de mesurer sa circonférence. Comment ont-ils fait ?
Ben, ma foi, ils ont fait comme tout le monde, ils ont mesuré. Vous allez voir comment c'est. D'abord, ils ne pensaient pas que la Terre était ronde. Au 8e, 6e siècle avant notre ère, ils croyaient que la Terre était plate. Hein, une Terre plate, c'est évident, on voit que c'est plat, quoi. Et alors, malgré tout, ils croyaient que la Terre était plate, et puis il y avait des cartes que vous avez peut-être vues, les cartes de la Terre, qui étaient ce qu'on appelle le T dans l'eau, vous savez, c'était de l'eau, et puis il y avait la Terre tout autour, c'était un disque qui flottait, et puis de l'autre côté du disque, il n'y avait rien du tout, on ne cherchait pas à savoir. Alors, ils se sont rendus compte que les bateaux, quand le bateau s'éloignait de la côte, ou qui s'approchait de la côte, on voyait, quand il s'éloignait, on voyait le bateau, la coque disparaissait, les mâts restaient visibles, et puis après tout disparaissait. Et à l'inverse, on voyait d'abord les mâts, puis ensuite la coque, et ils en ont déduit que la Terre était ronde. Moi, quand j'étais jeune, moi qui avais été élevé dans les brumes du nord-ouest de la France, je comprenais pas comment on pouvait voir un bateau s'éloigner et disparaître derrière l'horizon, puisque chez nous, à 4 ou 5 000, le bateau est dans la brume et on le voit plus. Quoi. Alors ça, je comprenais pas. Mais après, j'ai eu l'occasion de voir que dans les pays secs, les pays chauds comme la Méditerranée, eh bien, c'est visible, c'est remarquable même. Et alors, ils en ont conclu que c'était dû au fait que la Terre était ronde. Il y avait les éclipses de Lune, ils avaient déterminé que l'éclipse de Lune, ils avaient conclu ça, et c'était la Lune qui passait devant le Soleil et qui portait ombre, où la Terre passait entre le Soleil et la Lune, et la Terre portait ombre sur le Soleil. Comme l'ombre était ronde, ma foi, ils en ont dit, la Terre doit être ronde aussi. Et puis alors, il y avait une autre chose, c'est la hauteur des étoiles ou des astres en général variait selon la latitude. Quand on avançait vers le sud, on voyait les astres qui s'élevaient dans le ciel. Un degré de latitude sud, on voyait l'astre qui remontait d'un degré, etc. Alors ils en ont conclu que la Terre était ronde, et donc, à l'époque d'Ératosthène, c'était au 3e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on admettait que la Terre était une boule isolée dans l'espace. Alors, Ératosthène était un Grec qui vivait en Égypte. Et il s'est dit, ma foi, comme tous les savants sont curieux, il s'est dit, cette boule, j'aimerais bien pouvoir connaître la dimension de la boule. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il eut un raisonnement assez génial. Il se dit, étant donné que la Terre est ronde, c'est une boule, elle est ronde, elle fait 360 degrés de circonférence. Si je peux mesurer la longueur d'un degré, je n'aurai qu'à mesurer la longueur de multiplier la longueur du degré par 360, et j'aurai le tour de la Terre. Alors c'est là que, je ne vais pas m'étendre comment il avait fait, mais il a eu Sienne. Sienne était une ville dans le sud d'Égypte qui s'appelle Assouan maintenant, Sienne, et Alexandrie était sur le bord de la mer Méditerranée. Ce sont deux villes qui sont situées à peu près, pas tout à fait, mais à peu près sur le même méridien. Alors il s'est dit, il faudrait que je mesure un jour quelconque, alors il a pris le jour du solstice d'été, un jour, l'angle que forment deux ombres. Quoi, on dit que le soleil à Sienne tapait au fond d'un puits, et qu'à Alexandrie, un obélisque portait ombre. Et en faisant des calculs trigonométriques, il a réussi à voir qu'entre Sienne et Alexandrie, qui était plus au nord, il y avait 7 degrés 12 minutes de différence. Alors il s'est dit, c'est bien, je vais tâcher de connaître la distance qu'il y a entre Sienne et Alexandrie, en divisant par 7,2, je vais avoir la longueur du degré. Alors, comment il a fait pour trouver la distance de Sienne à Alexandrie? Ça, c'est assez marrant. Il a été trouvé des chameliers. Il y avait beaucoup de chameliers, des caravanes qui faisaient le trafic entre le long de la vallée du Nil. Et il a demandé à des chameliers combien de temps ils mettaient pour aller de Sienne à Alexandrie. Et puis, connaissant le nombre de jours qu'il leur fallait, il s'est dit après, et combien de stades vous parcourez dans la journée? Je n'ai pas les stades en tête, mais les autres lui disent, on parcourt tant dans la journée, et on met 8 jours et demi, ou quelque chose comme ça, pour aller jusqu'à là-bas. Et ben, il a conclu qu'il y avait 5000 stades, entre Sienne et Alexandrie, il y avait 5000 stades. Il a divisé ça par 7,2, il a trouvé la longueur d'un degré, et en multipliant par 360, il a conclu, ben voilà, la longueur de la circonférence de la Terre. Et il a trouvé 39 690 km. Vous voyez, c'était assez bon quand on sait que maintenant on table sur 40 000 km. Il avait une erreur de 0,8%, 0,7%. Ben c'était bien. Alors, du temps d'Ératosthène, 200 ans avant notre ère, on savait que la Terre faisait 40 000 km de circonférence. Mais, manque de chance, vous savez que toutes ces trouvailles, c'est jamais suivi. Hein. Il y a un adage qui dit « Les précurseurs ont toujours tort d'avoir raison trop tôt. » Et ça, c'est vrai, Ératosthène savait, il avait déterminé quelle était la circonférence de la Terre, et après, lui, on a oublié ça, pour parler de Claude Ptolémée, qui était un géographe et un astronome du deuxième siècle de notre ère, et bien lui, il pensait que la Terre était beaucoup plus petite qu'elle était.
Mais ça, c'est déjà une autre histoire.
Oui, ça, c'est une autre histoire, ouais. Mais alors, pour vous dire que à mesure que le temps passait, on a diminué, si vous voulez, la circonférence de la Terre, à tel point que Christophe Colomb s'était lancé vers l'ouest pour retrouver les Indes et retrouver l'Extrême-Orient, croyant que la Terre était plus petite, et puis qu'il arriverait plus vite. Et heureusement, il a eu une chance, il a trouvé l'Amérique en travers de la route, parce que sans ça, Christophe Colomb, personne ne saurait qui c'est.
Merci Monsieur Campion. Pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'activité astronomie amateur, nous avons innové puisque nous recevons nos amis du club Astro Le Cocher de La Chapelle-sur-Erdre.
Alors un petit mot sur Le Cocher, puisque d'abord Régis, je crois que tu es un ancien du Cocher, hein, de La Chapelle-sur-Erdre.
Oui, j'ai eu l'occasion d'aller voir ces voilà. il y a quelques années.
Et moi-même je connais bien Le Cocher, puisqu'on connaissait certains de vos adhérents, on a fait des choses ensemble, vous n'êtes pas loin de Nantes. Vous êtes parmi nos amis, vous venez aux conférences de Lassane, certains sont adhérents de Lassane, enfin c'est vraiment un club ami, et on va inaugurer un petit peu ce genre de séquence. Alors vous allez nous parler un petit peu du Cocher, hein.
Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier Daniel Werling de cette invitation qui nous permet de présenter Le Cocher, et remercier également Alternante qui nous reçoit. En quelques mots, tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Georges Blanco, j'habite La Chapelle-sur-Erdre, et je suis donc le président du club d'astronomie Le Cocher. Je suis en compagnie de Michel Raymond, qui est le vice-président. Un premier point, Le Cocher, c'est le club des observateurs de La Chapelle-sur-Erdre. Bon, c'est également Le Cocher, le nom d'une constellation.
Oui, parce que je suppose que vous ne fabriquez pas des
diligences.
Des diligences.
Non, pas encore. Pas encore. Non, notre activité consiste à tout d'abord à mieux faire connaître l'astronomie, et donc elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cette activité. Et tout cela se passe dans la convivialité, dans la bonne humeur. Michel pourrait d'ailleurs vous donner quelques détails sur la création du club.
Oui, merci Daniel de nous avoir invités. Le club est né en 1994 en tant qu'association individuelle. Mais il fait suite à une section d'une association qui...
Culture et loisirs, je crois, Chapelle.
Qui concernait l'astronomie, qui concernait la photo, qui concernait le théâtre, et qui a été créée en 1984 à l'occasion d'une éclipse de soleil.
Et la Seine était à ce moment-là dans la banlieue nantaise, enfin au sud de Nantes, à l'ouest de Nantes, pour voir cette éclipse.
Oui, et donc c'est Bernard Testot qui un jour a invité chez lui quelques amis pour voir cette éclipse. Et à la suite de cette observation, eh bien, ces quelques personnes ont décidé de se rencontrer régulièrement et donc de fonder un club d'astronomie. Voilà, le club actuellement a bien évolué.
Vous êtes combien là ?
Nous sommes environ 50 adhérents.
Ben c'est pas mal.
C'est très bien, c'est vraiment bien. C'est tout à fait louable. Et donc vous vous réunissez régulièrement, chaque semaine peut-être ?
Non, nous nous réunissons chaque mois.
Chaque mois.
Nous avons une réunion mensuelle le deuxième vendredi de chaque mois.
Le vendredi, vous aussi. Dites donc, c'est en liaison avec l'astronomie le vendredi alors.
Oui, mais je crois aussi que le vendredi c'est la meilleure date.
Hein,
oui,
pour, parce que le samedi on peut dormir un peu.
Voilà, pour certains. Où on observe aussi, puisque nous avons un terrain d'observation.
Oui,
ouais, en fait, c'est un champ, mais tout à fait accessible. Et nous faisons des observations assez régulièrement.
C'est au nord de la commune, hein, si je ne m'abuse.
Oui, c'est un terrain, c'est une prairie donc, oui. Que nous louons, qui nous sert de terrain d'observation, qui se situe, quand on est dans le centre de la chapelle, donc on prend la direction de Grand Champ des Fontaines, on passe devant la gendarmerie, on arrive à un premier embranchement qui va sur la gauche vers Trélières.
Voilà, là, il faut peut-être dire qu'il vaut au téléphone.
Voilà, j'allais vous suggérer.
C'est vrai qu'un plan vaut mieux qu'un indice. En deux mots, le terrain se trouve à 3 km du centre de la chapelle, donc il est facile d'accès. Et en plus, quand nous faisons des observations, nous fléchons l'itinéraire.
Ah, c'est parfait.
Donc avec des flèches marquées Astro.
Si mes souvenirs sont bons, parce qu'ils datent, comme je vous le disais, il y a quelques années, donc ce terrain est plutôt plutôt dégagé vers le nord et vers l'est.
Il est très dégagé vers le nord, très dégagé vers l'est. Alors effectivement,
on a un petit peu, Nantes. Voilà, on a Nantes,
oui, c'est ça. Mais on n'est quand même pas tellement gêné par la pollution lumineuse de la ville de Nantes.
C'est pas gênant. Vous aviez comme projet, il y a quelques temps, de faire une plateforme de béton, peut-être, pour recevoir des instruments. Est-ce que où ça en est un petit peu tout ça?
Malheureusement, non, nous ne pouvons pas faire de travaux sur ce terrain, puisque c'est un terrain qui ne nous appartient pas.
D'accord.
Que nous louons.
D'accord.
Mais bon, nous mettons quand même pas mal de télescopes, puisque maintenant nous avons une dizaine de télescopes au total, en comptant celui qui appartient au club. Et en comptant les télescopes des adhérents, oui.
Celui du club, c'était un 200 mm.
C'est un 200 mm, un Newton 200 mm. Mais les adhérents ont d'autres 200 mm.
Oui, il y a des Célestrons.
Des Célestrons en particulier.
Nous avons même d'ailleurs un Dobson de 330 mm qui a été fabriqué par un membre du club.
Ah oui.
Oui, alors, au point de vue instrument, je vois que vous êtes pratiquement ou presque aussi doté que la SAN.
Hein, c'est... Aussi doté, on peut le dire, parce que entre 330 et 360, il n'y a que 30 mm.
Ah, ça compte.
Sur une couronne, ça compte, oui.
Ça compte.
Oui, mais enfin, bon, c'est bien d'un club. Là, moi, j'ai connu le club de la Chapelle où ils étaient peut-être 50, mais ils n'étaient jamais 50 ensemble et ils avaient moins de moyens que maintenant. Et je crois que ça s'est développé ces dernières années.
Hein. C'est vrai. Nous avons des adhérents qui sont fidèles et nous allons surtout, je pense, avoir des locaux mieux adaptés. Grâce à la mairie de la Chapelle qui veut créer une maison de la nature qui regroupera donc les associations à viser nature au sens large du terme.
D'accord. Mmh.
Donc les choses devraient vraiment nettement s'améliorer à partir de la rentrée prochaine.
Je fais un constat qui est plus général, une politique générale, je dirais, qu'on pourrait penser naïvement que, puisqu'il y a un club à quelques encablures de Nantes qui regroupe quand même beaucoup d'adhérents, ça puisse faire de l'ombre à la société d'astronomie, ou l'inverse. Or, il n'en est rien. Et tandis que la société d'astronomie de Nantes montait en nombre d'adhérents, enfin est de plus en plus prospère, le club de la Chapelle est de plus en plus prospère aussi. Donc en fait, c'est quand nous montons, en fait nous montons tous ensemble, parce que c'est l'astronomie en fait.
C'est l'astronomie qui se développe. C'est vrai, c'est sûr.
De la part du public, et je pense que plus on sera nombreux à y répondre, et mieux les gens seront renseignés et informés.
Et alors c'est la porte ouverte un peu à une collaboration entre les clubs, parce que finalement, nous on est en ville, on est un peu défavorisés. Ils sortent un télescope et en quelques dizaines, en centaines de mètres, ils sont à pied d'œuvre, alors que nous c'est un peu plus laborieux. Et c'est pour ça qu'en fait les différentes sociétés doivent se compléter finalement, puisqu'on a on a plus vocation, nous on a un cycle de conférences, on a aussi de l'observation bien sûr, et je crois que il vaut mieux qu'on soit complémentaire,
tout à fait. D'ailleurs, nous avons participé avec un grand intérêt à la semaine de conférences que vous avez organisée, conférences vraiment très intéressantes.
Oui, puis qui sont là pour faire monter l'astronomie, c'est-à-dire pour donner aux gens le goût de cette science, de connaître, et en même temps de pas seulement d'observer, mais aussi de compléter son savoir.
Oui, je voudrais rajouter aussi que nous faisons des observations pour tout public. Nous participons tous les ans à la Nuit des Étoiles. nous participons aussi à chaque fois qu'il y a une éclipse de lune ou de soleil, et nous organisons aussi des semaines d'observation, c'est-à-dire qu'il y a des télescopes sur notre terrain tous les soirs pendant une semaine, par exemple, il doit y en avoir une au mois d'avril prochain.
On va l'annoncer, on l'annoncera sur Alternant d'ailleurs.
Oui.
Non,
ce sont donc des soirées faites pour le grand public, qui ne sont pas réservées aux membres du club.
Oui, parce que vous avez une activité club, hein,
bien sûr.
Le premier vendredi du mois, c'est ce que vous aviez dit.
Nos réunions ont lieu le deuxième vendredi de chaque mois.
Pardon. Voilà. Et là, c'est entre vous, mais vous accueillez aussi éventuellement des curieux qui souhaiteraient se joindre
bien
à vous.
Bien sûr, tout à fait.
Et il y a un numéro pour vous contacter, il faut le donner si on peut.
Eh bien, je peux vous donner donc mon numéro de téléphone 02 40 72 53 59.
72 53 59, ça c'est le président.
Oui, ça c'est Georges Blanco, donc BLANCO.
Et voilà.
Et voilà, Michel vous donne son numéro également.
Le mien aussi, 02 40 63 49 et 60.
Alors j'espère que vous avez bien noté. Il faudra voir aussi un jour avec notre ami Thierry s'il n'y a pas moyen de faire des liens sur Internet ou d'avoir des pages.
C'est
vous avez peut-être un site en plus.
C'est déjà fait. Thierry m'a proposé de faire un lien. J'ai reçu son email hier et j'ai répondu aussitôt que j'étais d'accord.
Ben voilà, les grands esprits se rencontrent. Et j'en profite pour vous rappeler l'adresse du site de la SAN où vous trouverez donc un lien vers le club du cocher. Hein. Le site, c'est tout simple, hein, c'est www.san-fr.com. Il n'y a rien de plus simple, hein. san-fr.com.
Très bien.
Et là, on vous trouvera par ce biais-là. Hein.
Très bien.
Il a ajouté quelque chose, chers amis.
Grand remerciement, parce que c'est la première fois que nous sommes invités à Alternante. Peut-être y aura-t-il une suite.
Mais je pense qu'il y aura des suites, d'une part, parce qu'on va vous inviter pour parler de votre activité. Hein. Si vous avez quelque chose à nous proposer, vous viendrez nous dire, bah, tiens, on voudrait bien parler de ceci, de cela, qu'on a vu, observé, ou ce qu'on a fait. Et puis aussi aborder des sujets avec nous, hein, renforcer un peu l'équipe d'Alternante.
Absolument, pourquoi pas, si vous voulez même faire des observations, j'irai un soir, ou si vous avez du beau temps et pas nous, il faut pas hésiter à prendre contact avec nous pour nous dire de venir.
Bien.
Voilà, alors, merci au Club de la Chapelle. Alors, avant de conclure cette émission, je voudrais quand même vous donner vous rappeler quelques petites choses. Alors, déjà, notre prochaine conférence, c'est... celle de Jean Audoux sur l'histoire de l'univers, hein, je crois que c'est le 20 février à l'auditorium du conservatoire. Et puis la prochaine émission aura lieu dans une quinzaine de jours, donc ce sera le lundi dans 15 jours à 21h. Et j'en profite pour remercier tous nos participants de ce soir, hein, nos invités de ce soir, Louis Campion, Régis Larcher, les membres, donc messieurs Blanco et monsieur Raymond, excusez-moi, de la Chapelle sur Erdre. Également notre ami Raphaël Roussel, qui a fait sa première en tant qu'animateur, puis il est meilleur que moi, j'ai l'impression. Bon, et Caroline Huchet à la technique pour cette émission Pulsan, l'émission de la SAN. Et vous avez aussi, je vous rappelle l'adresse de notre site internet qui est à www.san-fr.com. Et puis le dicton du jour, c'est à Sainte Agathe, eh bien la terre est redevenue plate grâce aux travaux de nos amis astronomes du 18e et 19e siècle. Merci chers amis, merci d'avoir été parmi nous. Pardon de toutes les petites imperfections, mais c'est la preuve que c'est une émission vivante. On va essayer de faire mieux la prochaine fois et de nous apporter toujours autant de science, si l'on peut dire, avec autant de bonne humeur, si l'on peut également. Merci, à la prochaine fois.